Martine Fourier, je trouve intéressant sur au moins trois des interventions, par exemple sur le travail qui a été fait dans cette école Freinet, ce travail sur la notion du fait que les enfants vont avoir des modes d'expression différents et que pour certains enfants, les lèvres et par l'enfant. Et il me semble intéressant dans ce qu'a dit Françoise aussi que pouvoir parler précisément de la question de l'histoire de l'émigration, des discriminations vécues, etc., était aussi un phénomène qui pouvait permettre à la fois aux jeunes et aux enseignants de partager. Et on retrouve dans la démarche d'aide ce travail sur les implicites, ce travail sur des démarches pédagogiques qui permettent de mieux expliciter les formes de compréhension des consignes, de l'environnement, etc., etc. Je trouve que là, on a quelque chose qui reste un droit fil qui me semble intéressant à retrouver. Mais je trouve très, très intéressant, vraiment profondément, cette notion de résilience, au fond, hein, qui est partagée par les trois, où même face à une souffrance, celle de l'école, l'école peut amener aussi ces phénomènes de résilience. Et que ce ne soit pas que le social, comme ça a été parfois dit par des interlocuteurs.
D'accord. On va prendre deux, trois questions ou interventions ou remarques. Oui, ce n'est pas forcément des questions. Il y en a, voilà, là, et puis au fond, après. Après Odile. Et après, on laissera là.
Jacques Tenier, professeur de mathématiques. Et aussi, je travaille dans un dispositif de raccrochage des élèves décrocheurs. Et je me pose la question de savoir pourquoi il n'existe si peu de dispositifs de raccrochage. Beaucoup d'élèves sont décrocheurs simplement parce qu'ils ont perdu le sens de l'école et à un moment donné, ils souhaitent retourner à l'école. Nous, on accueille ces élèves, on les accompagne, mais on reçoit en gros un élève sur 10 qui en fait la demande. Il y a une quantité invraisemblable d'élèves décrocheurs qui souhaitent retourner à l'école, justement. Alors, bon, dans le temps, il y avait un ancien ministre de l'Éducation qui a fait voter une loi, la loi Fillon, enfin, ça doit être un homonyme de l'actuel aide-premier ministre, dans laquelle il y a un article 34 qui autorise dans chaque établissement la possibilité de lancer une expérimentation pédagogique et quelque chose qui permette aux élèves de raccrocher ou de ne pas sombrer par rapport aux autres professeur traditionnel. Est-ce que cet article 34 est utilisé ? Est-ce que, bon, moi, j'ai un peu le sentiment qu'il ne l'est pas. Y a-t-il des exemples d'utilisation de l'article 34 et de dispositifs innovants permettant le raccrochage des élèves et l'accompagnement des élèves qui souhaitent retourner dans l'école après en avoir été exclus ?
Il y a une question tout au fond. Oui, enfin... Oui. Non. Tout au fond, après. Peut-être là-bas, d'abord, puis Odile après.
Oui, en fait, je ce n'est pas vraiment une question, mais une demande de répétition par rapport aux propos de Françoise Lorcerie. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, il y aurait en fait une réussite de l'école, puisque toutes choses égales par ailleurs, il n'y aurait pas de surreprésentation, enfin que le critère ethnique n'aura aucune influence sur l'orientation, en tout cas en lycée. Mais du coup, j'ai mal compris votre propos par la suite, puisque malgré tout, les élèves, en tout cas des lycées, vivaient leur vie scolaire comme extrêmement discriminante. Donc il n'y aurait pas de discrimination, mais les élèves vivraient leur situation scolaire comme discriminante ou discriminatoire. Alors, voilà, donc simplement, je voudrais simplement que vous précisiez en fait, ce que vous aviez dit. Et avec peut-être quand même une idée, c'est peut-être, hein, vous aviez parlé de l'orientation en lycée, donc peut-être que les phénomènes de discrimination, enfin il y aurait peut-être une sursélection justement des élèves issus de l'immigration pour l'orientation lycée, les orientations discriminantes se faisant auparavant, justement avant l'orientation lycée. Voilà.
D'accord. Puis vas-y, Odile.
Oui, je voudrais revenir un petit peu sur la question même de l'égalité des chances. Hier, j'ai un peu eu l'impression à un moment donné que, d'accord, on discute sur le mot égalité, équité, ou bien droit à l'éducation, comme vous dites, mais que pas trop sur le mot chance. C'est-à-dire, en fait, chance de quoi ? Lorsque on entendait les tableaux qui étaient exposés hier, on avait vraiment l'impression que l'égalité ou l'équité ou le droit à l'éducation visait une égalité de la chance à avoir un bon salaire, finalement, ou la chance d'avoir un métier de pouvoir, ou un métier avec une certaine puissance sociale, des choses comme ça. Et je n'ai pas trop entendu, ce qu'on a entendu par contre aujourd'hui, c'est peut-être aussi la chance d'être un citoyen actif, responsable, qui a une place, mais une place de pas simplement économique dans la société. Est-ce que cette dimension-là ne serait pas aussi à prendre en compte? Je l'ai entendu dans vos interventions aujourd'hui, sans que ce soit explicité en termes d'égalité des chances à être citoyen, finalement. Est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu ça? Est-ce que, de ce fait-là, est-ce qu'il faut s'occuper seulement des enfants qui sont dans des situations de difficulté scolaire? Là, je vais peut-être un peu casser le discours habituel. Est-ce que les enfants qui sont dans des filières de réussite, qui marchent bien, pour lesquels... Est-ce qu'on ne survalorise pas aussi ça en voulant que tout le monde raccroche à ça, en prenant ça comme modèle? Est-ce que les enfants qui sont dans ces filières de réussite ne sont pas aussi déglingués par la société? Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer des élites qui vont avoir une action néfaste sur le monde, qui vont poursuivre une certaine action néfaste avec laquelle on n'est pas d'accord? Est-ce qu'il ne faut pas aussi se pencher sur cet aspect-là, si on veut d'une école qui produise une société avec laquelle on est d'accord, hein? Je pense qu'il faut vraiment regarder les choses autrement que de manière misérabiliste, en voulant faire que ceux qui ne sont pas raccrochés raccrochent à ceux qui sont soi-disant en haut. Mais c'est quoi ce en haut qu'on regarde avec tant d'avidité, finalement? Est-ce que la question des contenus de ce que l'on enseigne n'est pas aussi à questionner au regard d'une égalité des chances à devenir des citoyens actifs et responsables?
On va laisser les intervenants répondre, quitte à ce qu'on prenne une deuxième salve après très rapidement. Juste, je voudrais dire, à propos de la question de Jacques Tegnier sur le droit à l'expérimentation, qui n'est pas abrogé, jusqu'à preuve du contraire. On va peut-être travailler avec la FESPI, la Fédération des établissements innovants, un ouvrage sur l'exploitation de cet article qui ne concerne pas seulement le raccrochage, qui concerne tout ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, qui veut réagir un peu à ce qui a été posé? Ce n'était pas forcément des questions, mais c'était... François, oui, Françoise, il y avait une question précise sur...
Oui, sur la question effectivement un peu bizarre de mon exposé. C'est exactement ce que nous offre l'ADEP, hein, que j'ai dit, c'est-à-dire effectivement quand on regarde les résultats, résultats estimés par l'orientation à l'issue de la troisième, hein, c'est le critère qu'ils ont pris pour évaluer les résultats. Ce qu'on observe, c'est que non seulement les résultats des élèves issus de l'immigration sont pas plus mauvais que ceux de leurs pairs, hein, sachant que la principale sélectivité de notre école, elle est sociale, hein. Les résultats des enfants issus de milieux pauvres sont mauvais par rapport aux autres, il faut quand même le souligner. Mais elle n'est pas plus mauvaise du fait qu'ils ont une origine immigrée, et elle est même plutôt meilleure. C'est ça aussi que... Et ce meilleur peut s'expliquer dans les théories de l'ethnicité par le fait qu'ils sont issus de familles qui, contrairement à l'image qu'on a d'elles, sont dans un projet de réussite, fortement senti dans les familles. Ils sont là, pas pour perdre leur vie, mais s'ils ont fait tous les consentements ou sacrifices qu'ils ont fait, c'est pour que les enfants réussissent. Donc il y a une attente de réussite, une pugnacité à l'égard de l'orientation qui est, semble-t-il, plus forte comparativement que celle de leur père. Bref, leurs résultats ne sont pas plus mauvais au total, mais par contre... Ils vivent fort mal la situation de minorité, d'être à part, d'être regardé comme bizarre, d'être regardé comme pas tout à fait normal. Ils le vivent mal et ils le projettent sur l'école. Ça peut nous renvoyer, sans développer trop mais ça nous renvoie à une réflexion sur l'égalité. L'égalité, et ça, je me réfère à des philosophes du politique qui l'ont souligné, l'égalité, ça a aussi une dimension intersubjective. L'égalité, cela se vit, c'est être vu comme égal et se sentir vu comme égal. Et ça, cette dimension-là profonde de l'égalité institutionnelle, pour reprendre ce que disait Pro hier, il disait, on a un discours à la finlandaise avec des pratiques à la coréenne. Le discours à la finlandaise, c'est un discours de solidarité. Personne au bord du chemin, ce qui se réalise dans une communauté de type freiné. Hein. Tout le monde est stimulé, tout le monde a sa place, etc. Et ben là, là, cette égalité-là, cette dimension profonde de l'égalité, elle est en permanence blessée par la vie des jeunes, la vie sociale et la vie même dans l'école, quoi. Et ça, cette dimension-là explique explique en bonne partie, j'ai l'impression, ce résultat qu'on observe d'une dégradation de l'expérience scolaire, expérience subjective.
Yves, tu veux peut-être, notamment cette question de l'objectif de réussite scolaire, purement scolaire, et la citoyenneté, comment c'est vécu dans cette école de Mont-Saint-Barreul.
D'après ce que tu as observé. Les maîtres de l'école de Mont-Saint-Barreul sont de redoutables agitateurs politiques. Il faut les dénoncer en tant que tels. Mais ça veut dire qu'effectivement, leur pratique pédagogique s'articule sur des conceptions pédagogiques et sur des conceptions du sujet et des conceptions de la société. Il y a une dimension politique de leur action, hein, ou au moins un arrière-plan, mais qui est fort et qui est partagé par ceux qui étaient les anciens ou les cadres structurels. Hein. Et je pense que c'est notamment ce que vous avez vu, je pense, en atelier hier. Et du coup, il y a effectivement, quelque part, des valeurs très fortes. Hein. Par exemple, la coopération plutôt que la compétition. Il y a la volonté, effectivement, quelque part, de fabriquer un certain type de citoyens qui pourront contribuer à un autre type de société. Hein. Voilà. Alors après, je crois que c'est très, très compliqué de se positionner par rapport à ça. Parce qu'on peut se positionner, si vous voulez, et en tant que citoyen, avec le fait qu'on peut espérer, on peut préférer tel homme politique à tel autre, telle conception à tel autre, etc., etc. Mais après, je crois que... les choses ne sont pas simples parce que toute valeur mérite d'être discutée, je crois, hein, et que je crois que il est difficile de trouver des sociétés à l'heure actuelle où il n'y ait pas la mise en œuvre aussi de la compétition à côté de la coopération, et la compétition n'est pas forcément entièrement négative. Ceci mérite peut-être d'être un peu titillé, d'être un peu creusé, d'être pas pensé comme des oppositions monolithiques. Hein. Bon. La deuxième remarque que je ferai en tant que chercheur, et c'est quelque chose qui nous inquiète un tout petit peu, mais on peut faire ça, si vous voulez, cette remarque par rapport aux membres de l'école Freinet, mais peut-être par rapport à ceux de beaucoup de mouvements pédagogiques. Hein. C'est un peu un privilège... malheureux de l'âge, quand on est depuis 20 ans, 30 ans, ben on se connaît malheureusement. Hein, je veux dire, on se connaît. Ça fait 30 ans qu'on se croise, qu'on se recroise, etc. Et que le renouvellement des jeunes n'est peut-être pas à la hauteur. Et qu'on peut se demander si cette articulation aussi forte sur des conceptions politiques et sur une histoire du mouvement, des mouvements politiques articulés au mouvement ouvrier, à ce que ça a été en France, n'est pas à certains moments quelque chose qui est susceptible de créer une brisure par rapport au renouvellement, si vous voulez, des générations pédagogiques. Voilà, c'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse simple. Bon appétit quand même.
Non, la question qui a été reprise à travers l'intervention de la collègue, elle est importante. Enfin, il faut la poser. Effectivement, est-ce qu'on peut penser uniquement en termes d'efficacité de la question de l'école sans poser la question de la pertinence? Je ne sais pas, hein, c'est un retour à l'envoyeur. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, l'expérience montre que, mis à part quelques rares rescapés, parce qu'ils ont rencontré des personnes, il y a eu des bifurcations dans leur vie, ceux qui ont été marqués et stigmatisés par l'échec scolaire ont plus de mal, en tendance, à relever la tête. Je suis frappé en ayant travaillé avec les jeunes, soit dispositifs relais, soit des anciens, vous savez, stage 16-18, soit avec des adultes, combien les gens ont durablement intériorisé les stigmates et transformé la sanction cognitive en sanction identitaire. Ils disent « je suis nul ». Vous comprenez, ça pèse, ça. Et donc, on ne peut pas si facilement opposer tension vers la démocratisation et tension vers l'émancipation. Sans confondre les deux. Et il me semble par ailleurs que là où ça tombe bien, de mon point de vue, c'est que les éléments qui semblent participer à une meilleure efficacité de l'école pourraient bien être ceux-là même qui participent à une meilleure pertinence et à l'émancipation. À chaque fois qu'on met les gens, donc les jeunes, à réfléchir, à chaque fois, on est gagnant. C'est tout ce que je voulais dire sur le sujet.
Arnold. Oui, moi, c'est sur cette question des élites qui a été posée tout à l'heure. Moi, je pense que, quelque part, la question de la difficulté scolaire dans notre pays résulte quand même, pour une part, de la façon dont notre pays conçoit ce qu'est la réussite et ce qu'est, je dirais, la réussite sociale qu'on est adulte. Le modèle, je veux dire une banalité, vous le savez tous, mais le modèle des classes préparatoires aux grandes écoles est un modèle qui est, quand on y réfléchit, assez catastrophique par rapport à un type de société qu'on souhaite. Je ne parle pas des élèves complètement déglingués avant d'arriver en fin de classe préparatoire, mais quand on en sort vivant, quelle conception on a de soi-même et des autres et de la façon dont la société doit être, la façon dont on considère les autres citoyens. Je pense que là-dessus, il y a des choses à creuser. C'est vrai que l'urgence, c'est la question des difficultés scolaires, mais une urgence peut-être moindre, mais à mon avis, une urgence quand même, c'est de réfléchir au modèle de société et aux élites et à la façon dont elles souhaitent se reproduire. Et vous savez bien que la question dont les élites souhaitent se reproduire, elle est calquée sur la façon, sur leur vécu, et quelque part, ça influe beaucoup sur la difficulté qu'on peut avoir à faire évoluer notre système éducatif. Vous savez bien que beaucoup de projets ont avorté parce qu'il y a eu des oppositions fermes d'anciens élèves et de personnes dans les hautes sphères du pays qui, a priori, n'avaient rien à voir avec une réflexion sur les programmes, mais qu'elles ont réussi, par des réseaux d'influence, à faire capoter un certain nombre de choses. Donc je crois qu'il faut avoir cette question en tête. Ce n'est pas qu'une question, je dirais, intellectuelle qu'on peut se poser en plus. Je pense qu'effectivement, il serait intéressant d'avoir un travail sur la reproduction des élites et la façon dont elles se vivent dans notre pays et comment ça influe sur notre système éducatif. Par ailleurs, sur la question de ce qu'on fait à l'école, moi je pense que qu'on réfléchit bien, la question de l'apprentissage, la lecture et l'écriture dans notre pays, son histoire, c'est bien la rencontre d'une exigence démocratique et citoyenne, mais aussi d'exigence économique. Il y avait dans une certaine partie
du patronat la nécessité d'avoir des travailleurs qui sachent lire des notices, qui sachent écrire un certain nombre de choses. C'était important pour le développement économique de l'époque. Il y a eu cette rencontre. Aujourd'hui, alors, quand on sait lire et écrire, on sait aussi lire, écrire. On sait écrire un tract, on sait lire un document, on sait lire un livre. Donc, c'est des choses qui se retournent aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'autonomie, lorsqu'on parle de développement de l'esprit critique, vous avez un certain nombre d'entrepreneurs qui disent qu'ils cherchent une main-d'œuvre capable de ça. Alors, est-ce que ça veut dire que former aujourd'hui des jeunes à l'esprit critique et à l'autonomie, c'est faire jeu du patronat ? Peut-être. Fondamentalement, nous, on sait bien que c'est autre chose qui est visée. Hein ? Quelque part, ça rejoint ce vieux slogan qui était « former l'homme, la femme, le citoyen et le travailleur ». Je crois que, quelque part, le rôle de l'école, c'est aussi ça aujourd'hui dans les modalités qui sont celles du début du XXIe siècle.
Alors peut-être deux questions, parce que là vraiment on est à la limite point de vue de la fin. Donc peut-être deux dernières questions. Voilà, il y avait Sylvie et Rémi, puis on arrêtera là. Enfin, on fera réagir les intervenants, puis on arrêtera.
Oui, Rémi Duvert, formateur. Je voudrais revenir sur ce qu'on appelle quelquefois les contenus de l'enseignement. Je préfère moi dire les compétences à faire acquérir aux élèves. Il me semble qu'une des grandes inégalités actuelles, c'est plutôt sur ce que j'appelle les grandes compétences ou les compétences fondamentales, ce qu'on appelle quelquefois les compétences transversales. Alors, par exemple, vivre ensemble, savoir vivre ensemble, savoir gérer une situation complexe, savoir effectuer une recherche documentaire, savoir créer, imaginer, ou même savoir exercer son esprit critique, puisque Arnold Bach vient d'en parler. Ma question, elle est plutôt à Yves Rotter, mais vous comprendrez qu'elle est plus générale. Les élèves de l'école de Mont-Saint-Barœil, de l'école Freinet, vous avez évalué leurs compétences en comparaison avec d'autres élèves pour pouvoir dire que ça a marché à partir d'évaluations nationales qu'on connaît bien, évaluations de début de sixième qui sont devenues en CM2, etc. Malheureusement, j'estime que ces évaluations n'évaluent pas ces compétences fondamentales. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez pu évaluer, alors sans doute de façon diachronique, les compétences transversales de ces élèves ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un double effet positif de la pédagogie Freinet, comme d'autres pédagogies, bien sûr, non seulement vis-à-vis de ce que j'appelle les petites compétences, mais vis-à-vis aussi des grandes compétences ?
Et peut-être une dernière question ici, Sylvie.
Oui, moi, la question que je voulais poser, c'était par rapport... ça marche ? C'était par rapport, peut-être d'ailleurs, à un effet de l'école Freinet aussi, par rapport au travail des enseignants. Parce que dans ce colloque, c'est quelque chose qui est à la fois omniprésent, puisqu'on se demande comment améliorer les pratiques, etc. Et en même temps, dont on parle de manière un peu simpliste, à la louche, etc. Donc la première question que je voulais poser, c'était à M. Reuter. Quand vous avez dit que vous avez étudié les pratiques dans cette école, comment avez-vous regardé le travail des enseignants, des maîtres ? Parce que j'ai posé la question hier déjà dans l'atelier et ça me frappe toujours de voir à quel point ce travail est invisible, inconnu, méconnu. Si je peux faire une pub, je vous conseille la lecture du livre de Françoise Lantôme et Christophe Hellou qui s'appelle « La souffrance des enseignants » mais dont le sous-titre est « Approche sociologie pragmatique du travail des enseignants ». C'est au PUF, ça vient de sortir. Ça permettrait de sortir un peu de cette simplification. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, de l'organisation, de la coordination entre enseignants, de la manière dont ils ont construit la confiance entre eux, comment ils travaillent à la maison, est-ce que ça change quelque chose de leur travail à la maison, ce qu'ils font ? Comment ils travaillent sur la parole et le travail des élèves, etc. Enfin, toute cette question-là. Et donc, la deuxième partie de ma question, ce serait à quelles conditions les enseignants peuvent entendre ce qu'on a dit dans ces deux jours, peuvent le prendre en compte, surtout dans un contexte où l'on dit tous capables, tous coupables, et donc où l'on alimente les défenses collectives plutôt que l'ouverture à la réflexion, et à une période où l'organisation du travail, moi je parle plutôt des collèges, empêche le travail collectif. Moi je ne dis pas qu'il n'est pas possible ou que les gens n'arrivent pas à le faire, je dis que l'organisation du travail empêche le travail collectif, empêche la concertation, empêche la construction de la confiance aussi. Donc là vraiment, moi c'est une question qui me tient à cœur, et je pense que si on ne la traite pas en même temps que ce qu'on est en train de dire, on ne peut pas faire bouger les pratiques.
Alors je me sens un peu obligé de répondre aux deux questions. Brièvement, pour la première question, j'ai dû mal expliquer ou mal me faire comprendre. On ne s'est pas appuyé du tout sur les évaluations nationales. J'ai expliqué comment on avait mis en place pendant 5 ans nos propres instruments évaluatifs avec observation, déclaration sollicitée, des tâches, des productions, etc. Et c'est simplement, à certains moments, on a comparé avec les évaluations nationales. Donc on ne s'est pas appuyé du tout sur les évaluations nationales, et on a, pour certains d'entre nous d'ailleurs, produit à certains moments des articles sur tel ou tel aspect des évaluations nationales pour dire bon, quel problème ça nous semblait soulever, hein, sans pour autant aller dans une condamnation absolue, parce que d'un certain point de vue, les instruments comparatifs peuvent s'avérer utiles, hein. Par exemple, pour avoir beaucoup travaillé sur la lecture à certains moments de ma vie, je me suis, comme nombre d'autres chercheurs, appuyé sur les statistiques du ministère de l'Armée. Eh ben, on peut en discuter, hein. Il n'y avait notamment pas les femmes dedans. Et néanmoins, heureusement qu'on avait ça aussi depuis des décennies pour pouvoir voir un peu mieux certains types de phénomènes. Mais donc, notre truc, c'était de comparer à certains moments, mais nos évaluations sont nos évaluations. Et on a des... Donc on a des tonnes de dossiers dessus. Alors sur ce, comment dirais-je, et il me semblait enfin avoir un peu dit, donc qu'on avait aussi pris en compte dans l'évaluation d'autres choses qui concernaient les incivilités, la manière dont on débattait, dont on vivait ensemble, la construction des valeurs, la construction des normes. Donc on a pris ça en compte. Alors je serais un tout petit peu, moi, plus réservé sur la notion de compétence qui se répand. C'est pour ça que moi, je préfère parler de performance un petit peu. Et si on est sur compétence transversale, encore beaucoup plus réservé, parce que, bon, à mon avis, vivre ensemble, c'est pas forcément la même chose dans les différentes institutions, y compris dans les différentes matières scolaires. L'esprit critique, c'est pas la même chose forcément dans les différentes disciplines. Et la notion de problème complexe, et à mon avis, là aussi, très très différente selon les disciplines et selon les contenus disciplinaires. Hein. Par exemple, il y a des problèmes complexes qui ont des solutions uniques dans certaines disciplines. Vous avez des problèmes complexes qui n'ont pas de solutions uniques dans d'autres disciplines. C'est le cas de l'écriture, par exemple. Hein. Bon. Alors voilà, pour la réponse à ce que vous disiez. Pour votre question sur le travail des enseignants, il va y avoir un double aspect, hein. Un premier aspect qui est vous avez raison, comment dirais-je, c'est une dimension qu'on a sans doute moins investiguée que d'autres, parce que on ne peut pas travailler forcément sur tout, et donc on s'est beaucoup investi sur 5 ans à 10, mais effectivement on a encore en tête et on continue à travailler dessus, hein. Bon. Sur ce, on a quand même pas mal travaillé dessus. On a quand même pas mal travaillé dessus, avec le fait que, comment dirais-je, il y a une invisibilité, mais une invisibilité, comment dirais-je, qui n'est pas forcément supérieure à celle du travail des élèves. D'accord, hein, je veux dire que là-dessus, les élèves, ils travaillent à la maison, même si ils s'organisent aussi, il y a des relations avec des acteurs extérieurs. En classe, on voit quelque chose qui est de l'ordre de l'extériorité aussi, mais pour savoir, par exemple, cette part, comment dirais-je, cognitive ou intellectuelle, etc., c'est plus compliqué, etc., etc. Bon, alors, on a effectivement, là encore, observé, on a mené pas mal d'entretiens
avec eux pour voir comment ils s'y prenaient. On a pu assister à des réunions informelles, etc. Pour un certain nombre d'entre nous, on était aussi informés ou déformés, comme on le veut, par le fait qu'on a été aussi enseignants à d'autres endroits de l'institution, secondaire, etc. Ce qui nous permet d'avoir une entrée complémentaire dans les pratiques et savoir à certains moments que, voilà, il y a certaines choses... Oui, qu'on sait quand on a été enseignant, etc., et qui nous aide à investiguer complémentairement. Alors maintenant, et je conclurai là-dessus, comment dirais-je ? Alors, ce travail dans des enseignants, d'ailleurs, qui peut poser problème à tel point au niveau de l'investissement, hein, pour la transférabilité, d'ailleurs, c'est des choses qui nous interpellent, hein, c'est l'investissement des gens qui sont dans l'innovation. Et là, il y a... moi j'ai écrit, comment dirais-je, on est là devant quelque chose qui excède peut-être le choix professionnel pour être du côté du choix de vie, et là aussi ceci peut être interrogé. Mais sur votre dernière question, donc, à quelles conditions les enseignants peuvent entendre, il a fallu un peu de temps. Alors il y avait, comment dirais-je, une sorte de confiance antérieure, parce que la prise de contact avait été effectuée par un IEN qui avait un passé d'enseignant, qui avait été aussi lié au mouvement Freinet et avec qui j'avais travaillé. Il y avait le fait qu'il se trouvait un certain nombre d'entre eux pouvaient connaître des recherches que j'avais effectuées et savoir que si j'avais pas de sympathie particulière pour tel ou tel mouvement, j'avais pas non plus d'antipathie, et je m'intéressais à l'échec scolaire, et je m'intéressais à l'échec scolaire en tant qu'il est social, effectivement. Bon. La deuxième chose, c'est ce qui se produit dans le travail, c'est-à-dire le fait qu'ils voient qu'on les respecte, et donc qu'on travaille aussi. Alors, chez les maîtres Freinet, la notion de travail est importante, donc il fallait qu'ils soient convaincus que les chercheurs bossaient beaucoup aussi. On ne peut pas glandouiller avec les Freinet, donc je recommande à ceux qui veulent aller tranquillement à la retraite de prendre plutôt d'autres militants alternatifs, mais cela c'est fatigant. Donc il y a ça effectivement, et puis il y a le fait que dans leur retour, à certains moments, ils voient que ça leur est utile, que ça leur apporte par rapport à leur projet. Et vous voyez, c'est un paradoxe, je trouve, excessivement intéressant chez une série donc de pédagogues alternatifs et dans la pédagogie Freinet. C'est d'un côté, on peut penser qu'il y a une dimension un peu rigide, un peu dogmatique. D'accord ? On peut. Mais en même temps, vous avez une sorte de hiérarchie des principes. Et dans la mesure où ils sont tendus vers le fait d'essayer de faire réussir tous les enfants, cet archiprincipe va faire qu'ils peuvent entendre ce qui peut leur être utile, et y compris ce qui porte des dimensions critiques par rapport au travail qu'ils effectuent. Et donc, de ce point de vue-là, ce principe est en même temps un principe d'une extrême mobilité auquel je rends hommage, quoi, d'avoir vu des gens qui se sont battus sur le terrain toute leur vie, qui partent à la retraite et qui, les dernières années, étaient prêts à écouter les remises en cause, à s'emparer de choses, etc. Je dis effectivement mon respect et mon admiration pour ces gens-là. Voilà.